carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, l'Académie des Beaux-Arts a proposé une journée Debussy le 24 octobre 2012 en commémoration du 150e anniversaire de la naissance du célèbre compositeur, mort trop jeune avant d'avoir pu être élu membre de cette Académie. Plusieurs intervenants, parmi les meilleurs connaisseurs, ont été invités par le président de l'année, François-Bernard Michel. La journée était animée par le musicologue Gilles Cantagrel. Dans l'émission que vous avez choisie, vous allez entendre un court propos d'introduction par Gilles Cantagrel, puis l'intervention de Michael Levinas, compositeur et pianiste, membre de l'Académie des Beaux-Arts, qui l'a intitulé « Péléas et Mélisande », c'est dire qu'il va aborder les rapports entre Debussy et l'opéra.
Bien, on va tourner maintenant une page après l'orchestre lui-même, eh bien l'opéra, ça va de soi. À l'opéra de Paris, à l'époque de Claude Debussy, la grande boutique, comme on disait alors, et que Debussy lui-même va accabler de pages assassines, sa ressemblance avec la gare Saint-Lazare, par exemple, avec la musique qu'on y entend est toujours aussi mauvaise. Bref, que joue-t-on ? Ben, les ouvrages français ou francophones de Reyer, de Meyerbeer, de Gounod, de Massenet, comme dirait Debussy d'ailleurs, en même temps que l'on reprend les opéras de Mozart et que l'on commence à représenter sérieusement Richard Wagner avec la Valkyrie, avec Tristan principalement, Tannhäuser, le reste viendra. Et quant à l'opéra comique, qui est à cette époque le haut lieu de la création dans l'art lyrique, c'est là qu'on a créé Carmen, entre autres choses, mais tant d'autres ouvrages, on joue aussi Dindy, mais également Aubert, Halévy, Félicien David, Victor Massé, Henri Bucer. En 1900, on y crée la Louise de Gustave Charpentier, dont Emmanuel Rebel a laissé entendre gentiment que Debussy n'avait pas grande estime pour lui. Il a même écrit qu'il aurait préféré se casser la jambe ce jour-là quand il a entendu la première de Louise. Et donc, ses sarcasmes ne l'ont pas épargné et Louise fera un triomphe. On sait que Gustave Charpentier, le compositeur lui-même, a dirigé lui-même donc la 1000e représentation de Louise, ce qui est un cas unique dans l'histoire de la musique. Et 2 ans après cette fameuse Louise, réaliste, roman musical à la Zola, c'est la création d'un ouvrage complètement atypique par rapport au répertoire traditionnel, si varié soit-il, Péléas et Mélisande de Debussy, d'après la pièce de Maeterlinck. Il y a eu une première tumultueuse pour des raisons tout à fait extra-musicales, de cabale, je ne reviens pas là-dessus. Et après cette première, l'ouvrage va connaître le plus grand succès, puisque en 10 ans, l'ouvrage aura 100 représentations, ce qui pour une œuvre contemporaine du temps est très exceptionnel. Avec Péléas s'ouvre un nouvel âge pour l'art lyrique. Debussy était passionné depuis sa jeunesse par l'opéra. Dès l'âge de 20 ans, il avait mis en chantier une comédie lyrique. Et tout au long de sa vie, il envisagea de nombreux projets d'ouvrages lyriques, comme par exemple La chute de la maison Usher d'après Edgar Poe et tant d'autres. Il était l'admirateur de Moussorgski et de Wagner, ce qui est une bonne leçon pour écrire de l'opéra. Auteur de nombreuses mélodies, il s'était frotté à la déclamation lyrique et ses mélodies étaient exécutées. Il avait le contrôle immédiat de ce qu'il écrivait et il ne peut évidemment pas se satisfaire d'une formule de théâtre, je dirais presque préfabriquée, où des récitatifs doivent immanquablement amener aux grands airs de bravoure que tout le public attend. Ces airs obligés, non. Alors, le choix du poème, le traitement de l'orchestre, le débit de la voix chantée, tout ça est complètement neuf. Ce débit de la voix chantée qui est calqué sur la voix parlée jusqu'à supposer, sans les avoir écrits, des quarts de ton. Moi, je me rappelle avoir entendu dans les années 50, Madame Irène Joachim, qui était bien placée pour savoir ce qu'elle faisait, chanter le rôle de Mélisande avec des quarts de ton, non écrits dans la partition, mais il y avait une espèce de glissement et de fluidité admirable. Donc, pour nous en parler, je m'arrête là en ce qui me concerne. Voici Michael Levinas, pianiste, compositeur, tout le monde le sait, disciple d'Olivier Messiaen, lui-même grand connaisseur de l'œuvre de Debussy, ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome, et il est aujourd'hui professeur d'analyse musicale au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Praticien de l'analyse, familier de Debussy, Michael Levinas nous emmène autour de Péléas.
Mon ami Gilles Cantagrel me charge d'une très lourde tâche. Heureusement qu'il y a le autour, parce que si c'était dans Péléas, Eh bien, il me faudrait beaucoup de temps et ça dépasserait de très loin, sans doute, mes compétences. Et bien sûr, j'ai la charge, et d'autant plus lourde, que j'ai bien suivi les cours d'Olivier Messiaen et que, ma foi, une œuvre de cette importance demande toujours, pour la personne qui l'aborde, énormément de résignation et de travailler sur un point, je dirais, qui est toujours autour ou latéral ou un instant de la lecture de Péléas et Mélisande. Donc évidemment, toute la question du récitatif, la question de la métrique, la relation avec le texte de Maeterlinck ne seront que, je dirais, que sous-entendus par les quelques points extrêmement, je dirais, pratiques, c'est-à-dire celui d'un praticien que j'ai pu avoir vis-à-vis de Péléas. Bon, bien, je l'ai enseigné quelques scènes de Péléas et Mélisande. Il y a sur Internet, d'ailleurs, une merveilleuse vidéo de Olivier Messiaen parlant des couleurs et des lumières et du récitatif d'Olivier Messiaen. Et j'étais très, très, très jeune à cette époque-là. Il y avait Béroff, il y avait Gérard Griset derrière moi. Et j'avais un peu le regard amusé d'un gamin encore en entendant ces extraordinaires évocations dans les doigts de Messiaen des harmonies de Péléas, du récitatif, de la liberté métrique. Et notamment, derrière, il y avait le souvenir de ce dialogue avec Hofmannsthal et autour de la « Peut-on traduire Péléas en allemand ? Peut-on traduire un texte de Strauss en français ?» Oui, mais Péléas, lui, était un travail qui est le début de la métrique du XXe siècle, et c'est en France que ces événements-là vont se passer. Donc je vais sans doute beaucoup vous décevoir en abordant deux petits points de Péléas et Mélisande qui embrassent en même temps des éléments de l'écriture de Debussy. Et bien sûr, c'est, je dis pratique, praticien, c'est autour de questions qui se posent à moi dans le domaine de l'écriture et dans l'écriture lyrique, et encore davantage dans les questions qui travaillent le monde de la création, c'est la relation entre tonalité, spectralisme, modalité, série, timbre, c'est-à-dire ces conflits sous-jacents de l'écrit de la composition actuelle, que j'ai abordé la question de Péléas. Donc, la question de Péléas, bien sûr, je vais l'aborder sur deux points, cette œuvre majeure. Il s'agira de mettre en évidence certaines structures de la langue de Debussy. Je dirais de la langue de Debussy, et quand je dis langue de Debussy, c'est-à-dire une langue qui éventuellement a rencontré celle de la langue de Maeterlinck, mais non pas celle de Maeterlinck et Debussy, et qui organise la relation avec le temps, le texte et le théâtre. Et ça va être, je dirais, très centré sur les structures modulantes, l'organisation des échelles, les actes harmoniques qui construisent la forme d'une scène. Et je l'aborderai dans la première scène. Alors, la forme d'une scène, bien sûr, quand on regarde l'analyse d'Olivier Messiaen, ou quand on regarde une analyse très contemporaine de la fin du XXe siècle, on voit admirablement l'évocation des modes, des tonalités, l'évocation des structures de la parole de Mélisande, le mystère de la non-réponse des dialogues, le mystère de la non-réponse dans les dialogues entre Golo et Mélisande, déjà se trouve au cœur de cette question de la modulation et de l'organisation des échelles. Mais comment cette scène s'organise? Sur quoi vit-elle? Quelle est sa charpente? Sans doute, mes maîtres le savaient parfaitement. Mais ils n'en parlaient pas, et c'est de cela que je voudrais aujourd'hui parler, parce que, bien entendu, cela permet de reconsidérer éventuellement la temporalité théâtrale, la manière dont un texte imprime le chant et la forme d'une scène. Donc nous allons entendre le tout début de Péléas, que tout le monde connaît. C'est le début de Péléas, c'est le tout début. Et je vais commenter en écoutant, on peut l'entendre. Un peu plus fort. suite que c'est sur deux accords que ça se situe, dont la base est d'un ré et d'un do. Ensuite un la bémol. Modalité. Un leitmotiv, nous en parlerons tout à l'heure. Échelle, mais l'échelle a changé de mode. Donc quelque chose s'est passé sur le plan temporel. Donc on a avancé dans le temps et dans l'espace. Il y a un sous-entendu d'attente de quelque chose qui va se réaliser. Et on va, en réalité, au lieu de le réaliser, aborder le mode de la perte de la gravitation. Il n'y a pas d'attraction, on est dans la forêt. On appelle ça un mode 1. Il a une étrange ressemblance avec le mode du début.
Je croyais cependant l'avoir blessé à mort. Voici les traces de sang. Et maintenant, je l'ai perdu de vue. Je crois que je me suis perdu moi-même.
Maintenant apparaît pour la première fois la trace de la tonalité, mais qui ne se résout pas. Et c'est maintenant l'effet de travelling. On voit au loin quelque chose apparaître grâce au système de la tonalité et de la modalité.
J'entends pleurer. Oh, oh, qu'y a-t-il là au bord de l'eau ?
On voit apparaître Mélisande.
La petite fille qui pleure au bord de l'eau. Elle ne m'entend pas, je ne vois pas son visage.
Ah.
Pourquoi pleures-tu ?
Stop, stop, stop. Bien, ce que j'ai voulu là pourrait paraître au début du XXe siècle, on pourrait dire naïf. Mais en réalité, c'est quelque chose que je voulais mettre en évidence. C'est-à-dire qu'il y a, de toute évidence, la dramaturgie et la forme de la scène, c'est-à-dire la structure, et d'ailleurs cette question-là est une question qui remonte à loin, c'est cette forme, le changement des échelles qu'on appelait en langage tonal modulation. Et ce changement d'échelle est en réalité ce qui permet d'une part de créer la dramaturgie, de suivre le texte, c'est-à-dire qu'en fait, on ne met pas en musique le texte, mais le texte implique la musique et implique un autre langage qui a une relation avec le langage du texte lui-même. Et bien entendu, comment cela fonctionne, je n'aime pas ce terme, mais sur quoi se l'est basé ? C'est basé sur le fait qu'il y a des échelles. On va regarder peut-être la table des échelles, un graphisme. Ces échelles, et ça c'est très debussiste, profondément debussiste. Voilà. Ces échelles-là, en réalité, sont des cousines. Elles ont entre elles, ce ne sont pas les modes à transposition limitée de Messiaen, ce sont des modes qui s'altèrent. c'est-à-dire dans le mot étymologique vraiment, c'est le temps qui passe sur l'échelle. Et bien sûr, le son de l'altération de l'échelle, il y aura là un lien très important entre Debussy et Bartok. C'est-à-dire, si on regarde l'altération des échelles dans la deuxième rhapsodie de Bartok, on voit qu'une échelle se reproduit à d'autres hauteurs, et en fin de compte, ce sont quelques notes qui changent. Cette question-là de l'altération me paraît très centrale, parce qu'elle recouvre, et en fin de compte, elle régénère une fonction même du système tonal. Quand on demande quelle est la relation entre sol majeur et ré majeur, on dit il y a combien d'altérations à la clé. Et cet élément-là est important aussi parce que dans l'altération qui se substitue aux hiérarchies tonales, et c'est un des enjeux, me semble-t-il, du langage debussiste, eh bien, ces altérations, en réalité, supportent que le temps passe sur une échelle pour devenir autre, c'est-à-dire que c'est une relation avec la forme, avec la narrativité et la théâtralité, bien sûr, voire avec la phrase, avec la relation entre le sens et le son, mais par ailleurs, elle se substitue à la notion de la gravitation et de la désinence. Je ne développerai pas ici un aspect très particulier du langage mélodique de Debussy, souvent pris pour un langage de fragmentation, mais quand on regarde ne serait-ce que la manière dont Mélisande dit « ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas » ou « je me jette à l'eau ». C'est-à-dire, ces structures-là, on le voit par exemple dans le début, dans la manière dont, d'ailleurs, Messiaen commente lui-même le prélude à l'après-midi d'un faune, dont je parlerai tout à l'heure, pour alimenter, je dirais, l'argumentaire sur Péléas et sur la théâtralité de la phrase, la relation avec le sens, le théâtre et le son, et les échelles. Mais bien entendu, souvent, le principe de l'élision, de l'ajout, je dirais, de l'ajout de modules à une phrase où ne me touche pas ou je me jette à l'eau, est un principe d'élaboration mélodique et de conclusion ou de non-conclusion de la phrase ou de fragmentation qui aura notamment des incidences sur, me semble-t-il, la rencontre entre Debussy et Stravinsky. Alors, où sommes allés ? Effectivement, là, on découvre notamment le formaliste. Je ne pense pas que ce soit un jeu intellectuel que de dire que le résumé entre le ré et le do du début de l'accord de Mélisande va en réalité être la trajectoire, et j'emploie ce terme volontairement en termes de langage musical, la trajectoire vers le do qui est le do de l'apparition de Mélisande, lequel do va se convertir non pas vers un système de modulation de type tonal, mais vers un ré bémol, c'est-à-dire une altération de l'échelle chromatique qui est d'un autre ordre, bien sûr, que la modulation tonale, mais néanmoins l'altération de l'échelle. Alors nous allons voir maintenant qu'en réalité, l'axe central, la névralgie de la scène, par-delà toutes les finesses, je ne réduis pas la problématique de la scène à ces questions-là, je parle d'un point technique dans le temps qui m'est imparti aujourd'hui, et dans mes limites personnelles, mais que bien sûr, cette relation entre le ré et le do, ou le ré et le do dièse, c'est-à-dire le caractère, je dirais, tonal de l'axe de l'échelle de ré, est au centre de la structuration de la scène de la découverte de Golo qui va vers Mélisande. Donc nous allons voir le deuxième exemple, nous verrons que ce do central, qui est un do modal, va devenir un do spectral, quand, pour reprendre le terme d'hier de la rencontre sur le transparent et le transparaître, transparaît dans l'eau, et des pages sublimes de Messiaen sur l'eau et Debussy, transparaît la bague dans la fondamentale du do, lequel redeviendra un ré bémol au moment de la découverte de Golo. On va montrer le deuxième exemple d'orchestre. Point central vers l'axe de do.
Qu'est-ce qui brille ainsi au fond de l'eau?
Qu'est-ce qu'il y a au fond de l'eau?
C'est la couronne qu'il m'a donnée. une couronne. Qui est-ce qui vous a donné une couronne? Je vais essayer de la prendre.
Non, je n'en veux plus. Bon, bien entendu, ce n'était pas un do cadentiel. Alors, je vais maintenant montrer, en fin de compte, cette question de la relation non hiérarchique entre deux échelles. Où c'est, ça, vous voyez, là, je vous ai montré, oui, ça, on y revient un peu en arrière, ce que j'appelle la technique du travelling. La technique du travelling, elle est importante parce que dans l'espace de Pélisas et Mélisande, bien entendu, on a ça chez Mozart, on a la manière dont l'espace est dessiné par la trajectoire harmonique. Avant l'arrivée du do, bon, cela évidemment met en question la méfiance que Debussy pouvait avoir vis-à-vis de Gabriel Fauré, parce que c'est évident que la fonction harmonique ici, elle est fonctionnelle, si je puis dire, elle construit des grilles, à la fois nous sommes dans des échelles, mais il ne faut pas ramener le monde acoustique ici à la fonction purement spectrale. C'est évident que c'est la directionnalité des échelles et la sophistication de l'art français, de l'organisation, de la série des accords qui mènent au do. Mais je vais maintenant prendre un exemple au piano. Je prends un exemple parmi de nombreux, d'infinis exemples, qui est dans les sons et les parfums qui tournent. C'est le prélude. C'est-à-dire dans ce prélude, bien entendu, nous avons d'ailleurs tout le système de la soustraction et de l'ajout d'une phrase mélodique. Mais au centre du son et les parfums, c'est pas une forme ABA simplement, nous avons une dénivellation presque bartokienne du sol vers le sol bémol, c'est-à-dire que ce qui est une forme ABA en même temps est une, je dirais, une altération de l'échelle, laquelle altération va revenir de nouveau vers la forme harmonique initiale. La dénivellation est ici, pour des révélations harmoniques. On va la trouver. Voilà. Ah, voilà. Ça, c'est essentiel, ça. La structuration est basée sur l'altération de l'échelle et non pas sur la hiérarchie. On revient. Sol d'écart. On va revenir sol dièse. Pour quitter cette question ici dans le temps imparti, vers le do dièse, nous allons voir maintenant que il y a chez Debussy, et ça c'est toute son ambivalence formelle, la richesse comme un génome, il y a ensuite évidemment un aveu tonal, comme il y a des aveux cycliques chez lui, c'est-à-dire qu'en fait, si ce n'était pas cyclique, s'il n'y avait pas de relation avec la tonalité, nous serions déjà dans un autre langage. Mais nous allons entendre l'aveu du do dièse qui a été masqué, ou du moins qui a été refusé, pour organiser la scène est autour du ré et du do, de la modalité, mais le système tonal, le do dièse, amène la notion cadentielle de la conclusion de la scène avant même que n'arrive l'interlude.
Ce n'est pas possible,
Mélisande, ne touche, ne toucherai pas.
Donnez-moi la main.
Oh, ne me touchez pas.
N'oubliez pas, je ne vous toucherai plus, mais venez avec moi.
Après, on revient sur le mode, bien sûr.
Venez avec moi.
Alors, bien entendu, j'ai pris ces exemples non seulement pour avoir une approche, me semble-t-il, de Debussy un peu affranchie d'un certain nombre de préjugé qu'il pourrait y avoir sur un langage qui ne serait plus ou qui ne serait pas un langage référentiel au système tonal, bien sûr. Mais je l'ai pris parce que cette question de la temporalité est au cœur d'un certain nombre de tensions esthétiques très importantes aujourd'hui, et je pensais que la substituer à la notion de modulation de type tonal, la notion d'altération, permettait de resituer d'une part la rencontre Debussy-Bartok, voire la rencontre Debussy-Bartok-Ligeti, voire aborder la question de la cohérence harmonique ou éventuellement la relation tonalité-non-tonalité dans un cadre qui serait peut-être plus élargi qu'un cadre purement de scission de système. Je vais maintenant aborder un autre point, peut-être plus historique, c'est la question du leitmotiv. Le texte de Messiaen est assez intéressant. Messiaen évoque la question du leitmotiv, évidemment, sans lequel Péléas ne serait pas possible, et évoque évidemment le rôle que le leitmotiv dans la tradition wagnérienne joue dans la forme de Péléas et Mélisande, ce que moi j'appelle aussi le caractère anthropomorphique d'un leitmotiv, l'identité psychologique. Il met très en évidence la relation entre le leitmotiv debussiste et non seulement le leitmotiv wagnérien, mais l'identité thématique de Moussorgsky. Il est très intéressant à ce moment-là de regarder dans le traité le fait que Messiaen met en évidence dans ce leitmotiv la question intervallique commune entre Debussy et Moussorgsky. Intervallique commune. Alors, je pense, me semble-t-il, que la dimension combinatoire et intervallique des leitmotifs est fondamentale. Il me semble qu'il s'agit d'une mutation importante qui aura des conséquences au XXe siècle, et notamment pour la seconde école de Vienne et pour Stravinsky. En quelque sorte, si vous regardez bien, on va écouter peut-être les leitmotifs ici, celui de Mélisande, Péléas, Golo, Arkel. Bon, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que on voit que entre ces leitmotifs, il y a des intervalles qui sont communs, troublants, qui sont, pour reprendre de manière allégorique un terme qu'on utilise en harmonie, mais j'aime bien l'utiliser comme ça, de manière un peu perfide. Les intervalles sont en harmonique dans la mesure où ils appartiennent à tout le monde. Et comme ils appartiennent à tout le monde, ils vont provoquer, et ça je crois que c'est relativement conscient chez Debussy, une sorte d'enlacement immédiat entre le leitmotiv de Mélisande et Péléas est plus redoutable. La seconde majeure de Golo est également enlacée avec le couple Péléas et Mélisande. C'est assez extraordinaire parce que, à la fois, on voit très bien que la musique du théâtre est à la fois illustration des personnages et en même temps formalisation abstraite. C'est-à-dire, il y a là un concept intervallique en lui-même qui est une combinatoire des intervalles sur lequel la seconde école de Vienne ne s'est en aucun cas mépris, puisqu'on voit très bien, quand on regarde les trois personnages du Kammerkonzert de Berg, que entre Webern, Schönberg et Berg, mis en musique sous forme de notes, les intervalles de seconde mineure et de tierce majeure et de tierce mineure sont les mêmes, et qu'étant les mêmes, bien sûr, on se trouve dans une sorte de continuel développement, un développement vertigineux. Donc, je vais me permettre, pour terminer mon intervention, de vous faire entendre les exemples des enlacements des leitmotifs. Ces éléments sont tellement essentiels, je ne suis pas sûr d'en avoir le temps, que de dire que dans le prélude à l'après-midi d'un faune, bien sûr, il y a le mode et le triton qu'on vous a fait entendre tout à l'heure, et ce motif divisé en deux parties, c'est-à-dire le mode qui va en triton en carte augmentée, puis ensuite une seconde partie sur laquelle Messiaen remarque lui-même que le sol bécard de la première partie devient un sol dièse, renversement de la carte do sol dièse. Excusez-moi, c'est un peu technique, mais je pense qu'on peut me suivre là-dessus. Ce que je voudrais simplement expliquer, c'est que cette sorte de vertige intervallique qui est très proche de la seconde golvienne, sur laquelle d'ailleurs Debussy et Stravinsky se sont retrouvés, eh bien, dans le module du début du sacre, ce vertige intervallique permet non pas un développement avec des périodes, et là c'est très curieux, le traité de Messiaen est assez troublant, puisqu'il parle de première, seconde, troisième, et voire d'une deuxième idée dans le prélude de l'après-midi de la folle. Or, il ne s'agit pas dans l'esprit de Mallarmé, déjà, d'avoir un développement d'idées premières et d'idées secondaires, mais d'une idée première qui ne cessera de se métaboliser en idées secondes, idées troisièmes, c'est-à-dire c'est le même et autre. Nous allons voir maintenant donc dans la scène en question comment la métabole des intervalles va devenir jusqu'à ce son étrange des matelots dont parle Messiaen, qui en réalité est encore faite de la seconde majeure et de la tierce mineure, qui ne cessent d'être continuellement les leitmotifs qui jalonnent totalement la scène devant le château. Nous allons entendre la partie d'orchestre devant le château. C'est une seconde majeure qui est en réalité le personnage de au-dessus le motif.
Cela m'étonnait aussi quand je suis arrivé ici. Et cela étonne tout le monde.
Alors, c'est très important parce que la chronologie de la scène n'est non pas faite de succession d'instants, mais de métaboles. C'est quelque chose. C'est-à-dire que j'ai cherché dans la métamorphose, et donc je rencontre cette problématique parce qu'elle a des incidences pour moi dans la conception théâtrale elle-même, voire dans la conception formelle. Donc quelque chose qui ne se situe au-delà du fait de dire « c'est annonce la seconde école de Vienne ». C'est un principe de temporalité formelle et langagière.
J'entends des bruits au-dessous de nous.
Alors bien sûr, on peut dire c'est un travail, c'est une technique d'écriture, sans aucun doute. Cette technique d'écriture a cet intérêt de métabole. Nous allons maintenant entendre donc le chant des matelots, c'est le dernier exemple, dans l'espace.
Que ce soit un grand navire, les lumières sont très hautes.
Voilà.
Nous le verrons tout à l'heure quand il entrera dans la bande du cachet.
Je me saisis pour le voir, il y a encore une brume sur la mer.
On dirait que la brume s'élève lentement.
C'est assez frappant quand on lit les longues pages de Proust sur la petite phrase, bien sûr, de Vinteuil, et sur cette relation avec l'élément et la nature, et cette interrogation sur la fragmentation, sur la manière dont les phénomènes arrivent à la perception tout en s'enfuyant, quelque chose. C'est quelque chose. Alors, ce caractère, je ne veux pas ramener, mon propos ne consiste pas à ramener l'impressionnisme à une explication purement formaliste. Tout ce qui peut être dit sur l'orchestre, sur la relation avec les modèles est évidemment essentiel. Ce qui me paraît, en tout cas pour conclure cette intervention et vous remercier de votre patience, c'est que tout de même, il y a là une manière de que le polyphoniste, en quelque sorte, le polyphoniste et l'harmoniste d'abord, ne font qu'un, que les structures mélodiques sont inclus dans le matériau et le matériau inclus dans la structure mélodique. C'est un des enseignements, notamment du passage du motif 19e-iste à cette transformation du motif. Mais alors, évidemment, me revient, je dirais, je terminerai peut-être là-dessus, sur une, évidemment, un très grand choc, comme si Debussy, en quelque sorte, n'avait pas été le passeur, mais un des passeurs très importants de la tradition wagnérienne. C'est-à-dire que c'est en aucun cas un phénomène de pure opposition, consciente ou inconsciente, je l'ignore. Et pour parler de la sensibilité du 20e, donc je le situe au 20e, ce choc assez violent que j'ai ressenti lors d'un cours de Pierre Boulez au conservatoire, disant que l'idée musicale était l'idée génératrice. Évidemment, ce phénomène, l'idée musicale était l'idée génératrice, m'a paru réductrice d'une certaine manière, car elle aurait pu tendre à réduire la notion de l'échappée poétique, sans aucun doute, c'est-à-dire comme si quelque chose était inclus dans l'origine, je dirais, le macrocosme comportait tout. Mais c'est évident que on peut se poser la question dans la temporalité théâtrale, si tout de même l'abstraction intervallique du leitmotiv n'a pas tendance, et n'est pas une manière en tout cas très puissante, de désincarner l'élément thématique et représentatif du personnage pour en faire dans le domaine du théâtre une structure purement formaliste. Et d'autre part, si nous ne sommes pas encore dans une des modalités de la temporalité théâtrale, que ce soit la relation d'un instant à l'autre, sans refaire une historique des formes théâtrales et de la grande forme wagnérienne ou de la grande forme debussiste. Je vous remercie.
Canal Académie vous propose la retransmission intégrale de cette journée de Bussy à l'Académie des Beaux-Arts. Vous pouvez écouter librement les autres interventions en tapant le nom de Bussy dans le moteur de recherche sur notre page d'accueil en haut et à droite. Merci de votre écoute.